découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Les biens et ouvrages d'utilité publique sont parfois vandalisés lors des manifestations publiques ou lors des marches des protestations. Alors pour une raison ou une autre, les manifestants pillent, détruisent écoles et autres bâtiments d'intérêt public. Alors quelles peuvent être les conséquences économiques ou sociales de ces actes de vandalisme? On en parle avec notre invité, le professeur Dan Kouba. Il est le président du conseil d'administration de l'Université canadienne au Congo. Encore une fois, professeur Dan, bonjour.
Bonjour.
Alors, destruction des biens publics, quels sont les conséquences qui peuvent en découler, professeur?
Écoutez, monsieur le journaliste, nous sommes là pour justement poser les diagnostics sur le mauvais comportement et les comportements inciviques qui marquent les encadrements spatio-temporels lorsqu'il s'agit de toucher aux symboles sacré de la République. Vous, en tant que journaliste, et nous, en tant que formateurs, nous devons tous, à l'unisson, réunir nos efforts pour justement profiter de ces moments pour éduquer la population, afin que cette dernière sache faire la différence entre ce qui est bien sacré et ce qu'il n'est pas.
Donc, d'abord, c'est quoi le mobile? Quel est le mobile qui peut pousser les gens à poser des actes de vandalisme?
Les mobiles sont multiples, parce que vous savez, avant que l'homme atteigne l'étape qu'on appelle de l'interdépendance, l'homme est d'abord dépendant. Okay? Il dépend de ce qu'on appelle la victoire privée. Donc, l'homme se cherche et en se cherchant, parfois l'homme s'ignore. Il ne sait pas quelles sont les valeurs qu'il faut, n'est-ce pas, respecter pour ne pas tomber dans au plus bas niveau. Les mobiles peuvent être, je dirais, variés, mais ici c'est pour nous l'occasion de vraiment apporter cette information à notre population pour leur dire écoutez, quelles que soient vos revendications, quelles que soient vos motivations, il y a des valeurs sacrées qu'on ne peut pas toucher, notamment les églises, hein, parce que ce sont des symboles divins. Donc, quelle que soit la motivation d'un peuple, quelle que soit peuvent être
la frustration, la colère
ou la misère, on ne peut pas toucher au symbole divin, ok. De même que on ne peut pas toucher aux symboles tels que les hôpitaux, par exemple, la Croix-Rouge en situation de crise, quelle que soit la tension ou quel que soit le motif d'un conflit, on ne touche pas à la Croix-Rouge, on ne touche pas aux hôpitaux ou aux médecins. Et de même pour l'éducation. Donc, pour nous, c'est ici l'occasion justement d'éduquer et d'informer et de former notre population si ces valeurs sacrées que la population ne peut jamais toucher, quel que soit le mobile.
Voilà. Donc, quel que soit le mobile, hein, faut pas toucher aux églises, pas aux hôpitaux et pas aux écoles. Et quand on parle des écoles, on parle des écoles, on parle au niveau primaire, secondaire et même au niveau universitaire.
Tout à fait, parce que, vous savez, la plus grande valeur économique d'une nation n'est ni or ou richesse que vous avez en sol et sous-sol, mais c'est plutôt la capacité capacité d'un peuple de transformer ses ressources. Or, la capacité d'un peuple de transformer ses ressources, c'est ça qu'on appelle l'éducation. C'est ça qu'on appelle l'école primaire, secondaire ou universitaire, j'en passe.
Institut supérieur.
Institut supérieur. Donc, par l'éducation, c'est le socle même de tout développement. Vous savez, le pays comme l'Inde, il y a de cela deux décennies. Nous sommes dans les années 1981, 82, 91, 92. C'était des pays, je dirais, sous-développés. Mais aujourd'hui, l'Inde a su se développer tout simplement grâce à l'éducation, parce qu'ils ont compris que en faisant appel aux autres pour investir dans leur pays, mais les investisseurs vont plus chercher les profils, ok, de ces travailleurs. Or, les profits de ces travailleurs viennent de l'éducation. Donc, quand on éduque un peuple, ben, on aide toute une nation à se relever. Donc, ce n'est que par l'éducation que nous pouvons, si aujourd'hui, demain, nous voulons un pays émergent à l'horizon 2020-2030, ce n'est que par l'éducation. Donc, si nous n'éduquons pas et que nous ne profilons pas le peuple congolais, demain, nous récolterons que misère. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il faut insister sur ces valeurs, qui sont des valeurs sacrées, intrinsèques, que quelle que soit la motivation, quelle que soit la couleur d'un peuple, qu'on ne peut jamais, jamais y toucher.
Et comment doit se faire cette éducation? Souvent, on parle aussi de l'éducation à la nouvelle citoyenneté. Ça doit passer par les écoles, les institutions de formation, d'enseignement universitaire.
Si on doit poser les diagnostics dans ces sens, pour voir quel nouveau type d'homme nous pouvons avoir demain par rapport au leitmotiv de la société émergente que nous voulons à l'horizon 2020-2030, je crois qu'on ne doit pas aller par quatre chemins. Il faut professionnaliser notre enseignement. Au lieu de rester dans un enseignement aujourd'hui, malheureusement, qui est encore un enseignement magistral, nous devons plutôt aller vers un enseignement professionnel.
C'est-à-dire
Former l'homme pour que l'homme puisse répondre aux besoins de la société. Et quels sont les besoins de notre société? Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de manger. Le peuple congolais a besoin de se déplacer. Avons-nous des institutions de formation pour former, pour se focaliser sur les manger de l'homme? Avons-nous de
le manger, vous voulez parler de l'agriculture?
Entre autres, on pouvait avoir l'école primaire qui commence, l'école primaire qui a pour profil ou orientation vers l'agriculture, par exemple, et former à l'université, pourquoi pas, de professeurs en manucurie, si je peux utiliser ces synonymes, ou en ponderie, pour dire que les spécialistes en pondou, mais pourquoi pas. Vous savez,
en Amérique... Il y a un professeur qui a fait des études sur le kiki à la casa, quelque chose comme
bien,
ça.
Bien sûr, vous savez, en Amérique d'où je viens, il y a des spécialistes en neige. Vous voyez un professeur qui a fait sa thèse rien que pour étudier la neige. Alors que nous avons des besoins dans notre société et nous n'avons pas de spécialistes en Pondou, nous n'avons pas de spécialistes en Kwanga, nous n'avons pas de spécialistes en Bika, en Binzo et tout ça. Oui. Et d'ailleurs, le Fumboa, pour en parler, depuis que nous consommons ces aliments, c'est toujours à l'état sauvage, à l'état naturel. Nous n'avons jamais su apprivoiser l'écosystème de Fumboa, l'écosystème de Pondou. Nous continuons à les cueillir à l'état sauvage. Mmh. Alors qu'il y a lieu d'apprivoiser les systèmes de production de nos besoins. Donc, par la professionnalisation de l'enseignement, j'attends dire comment est-ce que nous pouvons répondre à nos besoins spécifiques, à nos besoins immédiats. Et ces besoins-là, on doit les diagnostiquer.
Les besoins primaires.
Manger,
le logement,
et créer
transports.
Des spécialistes dans ces besoins-là, des docteurs, des spécialistes qui vont réfléchir sur ces besoins, qui répondent justement aux besoins de la société.
Donc, et c'est là, Edera, ça va permettre de lutter contre la destruction des biens publics.
Non seulement cela va aider à lutter contre la destruction des biens publics, mais aussi à recréer un nouveau type d'homme. un nouveau type d'homme qui va prendre conscience de soi par rapport à son environnement spatio-temporel, je venais d'en parler tout à l'heure, qui va prendre conscience de l'interdépendance avec les autres, la synergie qui peut créer dans la société pour que nous vivons tous dans une société où il faut bon vivre, d'en vivre ensemble et que à l'unisson nous puissions tous espérer à un état ou à une société émergente à l'horizon 2020-2030.
Alors quand on détruit les biens publics tels que vous l'avez cité là, les églises, hôpitaux, écoles, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence?
Ben, c'est la perte de l'âme. C'est l'homme qui perd ses repères. Toucher à l'âme de la nation, toucher aux valeurs sacrées plutôt de la nation, c'est toucher à l'âme de toute une société. Donc, quand vous commencez à toucher à vos symboles divins, vous commencez à toucher aux hôpitaux, vous touchez à l'éducation, quelles que soient vos revendications, ça veut dire le peuple perd espoir, perd l'âme. Et ça, vous et nous, journalistes, vous avez pour rôle également d'informer et aussi d'éduquer, de former. Nous, en tant qu'encadreurs, nous avons rôle également d'éduquer, de former. Nous devons justement lever nos voix pour dire à notre population, quelles que soient nos revendications et nos colères, nous ne devons jamais, jamais toucher à ces valeurs sacrées qui constituent le socle de notre société et nous ne devons jamais oublier cela. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir et poser les diagnostics afin que notre population comprenne que nous ne devons plus jamais tomber plus bas que le niveau initial qui est de respecter ces simples valeurs sacrées d'une nation.
Kayembe nous appelle de Manono et Clément Daï de Kananga. Kayembe, bonjour.
Bonjour.
Yeah. Quelle est votre question?
Oui, moi je voulais savoir, je voulais poser ma question à l'invité que j'ai salué d'abord en passant. Je suis à Manono présentement et j'ai déjà constaté à de plusieurs manifestations, vous voyez, les gens qui sont en colère sont en train de détruire les biens publics. Et même s'il n'est pas en colère, on trouve aussi des fois des routes qui sont en train de façonner des briques dans des rues. Et quelqu'un, il fait n'importe quoi chez lui, les déchets, il va, il jette dans la route. Et c'est ça, ça, c'est quelque chose. Et comme un bien public qu'on ne respecte pas, si, par exemple. Et maintenant, est-ce que la loi a prévu de tels cas et telles personnes, on peut les sanctionner? Comment est-ce? Parce qu'il y a des fois, là, il y avait un monsieur qui avait même détruit un monument ici. Mais deux, trois jours, on le voit encore si on est dans des ruines. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire à de telles situations.
Merci. Clément Daillé, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité de la radio 4 et à tous les auditeurs.
Quelle est votre question par rapport à la destruction des biens publics?
En tout cas, merci vraiment de m'avoir accordé la parole. Mais une chose est certaine, Jody Daniel. Il faut que tant qu'il n'y a pas dans votre entrée, autrement dit, à la porte du salon, simplement ce que nous pouvons appeler le rideau. Mais s'il n'a pas l'habitude, à chaque fois que le papa mange, mais il utilise vraiment le rideau là pour vraiment s'essuyer. Vous ne voyez pas que les enfants risqueront vraiment d'imiter votre façon d'utiliser les rideaux comme essuie humain. Alors dans ce cadre, je voudrais juste demander à notre invité, qui peut respecter davantage les biens publics? C'est ceux qui sont supérieurs ou bien ceux qui sont inférieurs? Voilà vraiment la première préoccupation. Alors j'ai enseigné dans une école catholique, alors j'avais remarqué que non, le préfet avait l'habitude de se mettre sur le pupitre. Alors ce cas-là était devenu vraiment général, voire même les élèves qui imitaient ce comportement-là de mettre à tout moment qu'ils sont libres sur le pupitre. Nous avions fait de notre mieux pour passer ce problème-là, ça n'avait pas tenu, car le préfet avait dit à ses élèves de nous accuser, car nous ne sommes pas en mesure de surveiller le patrimoine public. Voilà au moins ce que je voudrais savoir. Maintenant, la deuxième des questions. Il est vrai que nous avons plusieurs biens économiques, mais dans quel... Quels biens pouvons-nous accorder de l'importance, puisque les drapeaux, nous ne pouvons pas en parler, car il y a ceux qui utilisent même les drapeaux comme des mouchoirs, ainsi de suite, et qui n'arrivent même pas à accorder de l'importance. Mais quels biens publics que nous devons accorder de l'importance? Voilà ce que je pouvais juste faire.
Merci. Bien, merci, professeur Dan.
Oui, très bien. J'ai suivi le question de nos différents auditeurs, à qui je dis d'ailleurs merci pour l'attention particulière qu'ils accordent à cette émission. Écoutez, je crois que nous réfléchissons tous dans le même sens pour dire que nous devons respecter le bien public. Nous devons respecter des symboles sacrés de la nation parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes dans un espace, dans un encadrement spatio-temporel où nous partageons les mêmes valeurs, où nous partageons les mêmes biens. Quand vous détruisez les biens publics, sachez que vous détruisez votre propre bien. À qui appartient les biens publics? Mais ça appartient au peuple congolais. Mmh. Et le peuple congolais, c'est qui? Le peuple congolais, c'est vous, c'est moi. Et parmi ces biens publics, mais il y a des biens qui sont sacrés. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est justement pour poser notre diagnostic si ces biens sacrés là, quelles que soient nos colères, quelles que soient nos revendications, nous ne devons pas brûler nos églises, nous ne devons pas détruire nos écoles, nous ne devons pas piller ou mettre à sac nos hôpitaux, parce que quand nous tomberons malades, même pendant les manifestations, on doit nous conduire dans ces hôpitaux. Mmh. Et si nous mettons les mêmes hôpitaux à sac, ben, qui vont intervenir pour nous? Où serons-nous soignés? Et demain, après les pillages, qui va nous éduquer? Où serons-nous éduqués? Et c'est toutes ces choses-là que nous sommes ici pour justement insister, stigmatiser, pour que notre peuple comprenne qu'il y a des valeurs sacrées, quelles que soient nos revendications, que nous ne pouvons jamais y toucher.
Voilà, il faut jamais y toucher. On va revenir aux autres questions des auditeurs. Le temps d'accueillir Raphaël de Kinshasa. Vous voulez également participer à cette émission? Appelez-nous au 081 890 63 94.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Destruction des biens publics, quelles sont les conséquences? Professeur Dan Kuba, spécialiste en administration des affaires et président du conseil d'administration de l'Université canadienne au Congo et l'invité de Capi Service. Raphaël, vous êtes à Kinshasa, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, bonjour monsieur, merci beaucoup. Je salue d'abord en passant notre invité pour son sujet. Moi je pense que naturellement l'homme n'est pas né pour détruire, l'homme n'est pas né lorsqu'il s'agit d'une manifestation ou pas, je ne pense pas qu'il y a des hommes qui peuvent se décider d'emblée d'aller détruire. Mais mon problème, c'est que je trouve un peu, particulièrement chez nous, que les hommes là, ces biens là, qui sont des personnalités morales, qui sont incarnées par les personnes physiques, si les hommes, si les individus, les Congolais en particulier, peinent le courage ou cette audace-là d'aller détruire des biens qui sont taxés comme état des biens de des institutions publiques, c'est parce que ces gens-là qui incarnent ces institutions, parce que les institutions, vous le savez, sont des personnalités morales, ils ne peuvent pas agir d'elles-mêmes, ce sont des gens qui les incarnent, qui agissent et qui sont un peu colorés. Je parle de colorés parce que ces gens-là, on trouve qu'il y a plus, ils laissent l'essence du métier, mais surtout c'est les politiques. Donc, moi je vais d'abord demander à notre invité de plus insister non seulement à l'égard des gens qui détruisent, oui, c'est mal, moi aussi je condamne, mais aussi envers ceux-là, ces personnes-là qui incarnent ces institutions, d'être aussi des vraies églises au milieu du village, de bien servir la nation selon les attributions qui leur sont dévolues, de ne pas être à parti pris et de ne pas servir les institutions, les intérêts des politiques. Moi, je pense que si cette culture soit incarnée dans le mental des gens, je pense que la solution pourra un peu aller. Merci en tout cas, en passant et en résumé, c'était ça.
Merci Raphaël. Voilà. D'accord, merci professeur Dan.
Tout à fait. Je venais le dire tout à tout à l'heure que nous devons tous travailler sur le plan de développement personnel pour que l'homme congolais comprenne qu'il y a différentes étapes d'évolution dans justement dans la progression sur le plan personnel de l'homme, et que après la victoire privée, nous devons tous travailler à l'unisson pour la victoire publique. Et la victoire publique, c'est travailler gagnant-gagnant. Aussi bien pour nos autorités que pour la population, nous devons comprendre qu'en travaillant gagnant-gagnant, nous travaillons tous pour la victoire publique. Mais il y a aussi la synergie que nous pouvons créer entre nous en tant que peuple d'un même espace spatio-temporel. Nous avons, chacun a des atouts, et si nous mettons nos atouts ensemble, nous travaillons pour la victoire publique. Mmh. Et cette victoire publique est l'apanage aussi bien de l'homme politique que de gouverner. Et si nous sommes là, c'est justement pour sensibiliser les uns et les autres à travailler pour la victoire publique, pour un espace commun qui est le Congo.
Quand Mbende Manono nous a dit qu'il a vu quelqu'un aller casser un monument dans la ville de Manono, et personne, la personne est libre, elle n'a pas été arrêtée. Alors, quand tant qu'il n'y aura pas aussi l'impunité, il n'y a pas de sanctions, certaines antivaleurs vont continuer.
Mais tout à fait, c'est ce qui est déplorable. Comme je l'ai dit tantôt, nous commençons à perdre nos repères. On ne doit pas perdre ces repères-là. Aussi bien au niveau des gouvernants que des gouvernés, on doit savoir ce qu'on doit ne pas toucher, et ce qui est sacré et ce qui est symbolique pour la nation, c'est pas l'éducation, mais c'est tout le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour réfléchir et poser les diagnostics pour que la population apprenne, et qu'en insistant là-dessus, tant soit peu, nous allons atteindre notre objectif qui est celui d'informer, de former, d'éduquer et d'encadrer notre population.
Mais certains disent que la foule en colère n'a pas d'âme. Hein. Il suffit que qu'un membre de la foule dise « Allez, on attaque ce bâtiment, c'est fini, tout le monde y va sans réfléchir. »
Ah, oui, je suis d'accord, mais si au départ cette foule est éduquée, quelle que soit la motivation, elle ne perdra pas la raison. Ailleurs, on voit aussi des manifestations, mais vous ne verrez jamais, pour ne pas faire leur publicité, d'autres peuples aller s'attaquer à leurs symboles sacrés ou à leurs héros ou brûler leurs monuments, comme on venait de le dire. Mmh. Non, jamais, jamais, quand on sait que ça, c'est un héros national, quelle que soit la motivation, on va jamais casser tous ces symboles-là. Donc, le tout part de l'éducation. C'est pour cela que nous devons insister et informer, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est justement pour travailler sur ces valeurs, pour que notre population comprenne que, quelle que soit notre motivation, nous ne devons pas casser. Parce que moi, j'ai entendu dire, pendant que notre institution, malheureusement, lors des tristes événements du 19 septembre...
Votre établissement a été saccagé.
Oui, l'Université canadienne au Congo, à l'IMETI, a été saccagé, tout simplement parce que nous l'avons construit avec une baie vitrée, et que les gens ont dit « Oh, si vous l'avez construit comme ça, c'est que c'est de l'argent de la politique. » Donc, et c'est justement parce que les gens sont habitués à voir, et ce qui est d'ailleurs erroné, de voir seulement les hommes qui sont aisés sont les hommes politiques. Alors qu'ailleurs, la politique, c'est d'abord pour servir les peuples, ne pas pour se servir. Mais chez nous...
Bon, donc on a cassé tout simplement parce que
la baie était vitrée, donc c'était bien
joli,
présenté,
joli à
c'était
voir.
Joli, joli à voir. Ils ont dit non, l'université canadienne, le promoteur doit être
un politicien.
Parce qu'on est habitué, quand on a l'argent au Congo, c'est qu'on est politicien. Alors qu'il n'en est rien. Nous avons fait ça pour justement mettre l'étudiant dans un confort. Parce que on peut être à l'université en train d'étudier, mais on est dans son confort, et nous avons voulu créer ces conditions favorables dans l'enseignement pour que l'étudiant puisse se retrouver dans un beau cadre et apprendre comme il faut. faux, mais les gens ont confondu ces intérêts-là aux intérêts politiques et ils nous ont cassé rien que pour ça. Donc, ce n'est pas parce que aujourd'hui nous sommes victimes que nous devons stigmatiser cette population. Non, au contraire.
Nous
ces comportements-là, nous profitons justement pour éduquer, former et informer notre population pour leur dire attention.
Alors là, je pense qu'il revient aussi aux responsables de ces partis politiques ou des regroupements politiques d'encadrer leurs membres, de les éduquer, à tous les niveaux.
Un parti politique a d'abord pour mission de mettre en place un projet de société et dans lequel il est prévu l'encadrement de ses membres. Donc, le tout devrait commencer par là. Je l'ai dit tantôt, il faut la formation. Il n'y a que par la formation que nous pouvons sortir notre peuple de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Il n'y a que par la formation. Il y a des pays occidentaux comme Suisse ou Israël, mais qui n'ont pas les mêmes potentiels, les mêmes ressources que la République démocratique du Congo regorge en sol et sous-sol, mais ils sont beaucoup plus développés que nous. Vous pensez que c'est par quoi? Si ce n'est pas l'éducation, c'est parce que ils ont une éducation bien profilée, ils ont mis tout le budget qu'il faut, ils ont mis toutes les ressources pour profiler, pour former l'homme selon un profil donné. Et aujourd'hui, les résultats, c'est qu'ils sont dans les conseils des nations communs de pays développés. Et nous, avec nos ressources, puisque nous ne mettons pas l'accent sur la formation professionnelle, je disais tantôt, nous avons des mines, mais nous ne formons pas assez sur les mines. Nous faisons que l'exportation, nous faisons que la cueillette, on prend et on va ailleurs. Alors, nous devrions plutôt former, comment transformer nos minerais en produits finis et créer des surcroît, créer de l'emploi par cette transformation. Et cette transformation, c'est l'éducation. Donc, il faut plutôt miser sur l'éducation que miser sur autre chose.
Constant nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour aussi à l'invité du jour.
Nous parlons de la destruction des biens publics. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ok. Moi, j'ai une petite question à demander à l'invité. Ce que j'aimerais savoir est que peut-être s'il y a une ville morte, hein, on a interdit de ne plus fonctionner les écoles, les hôpitaux, mais ainsi que les églises dans ce sens-là. Bon, on a interdit comme ça, mais il y a certaines écoles qui n'ont pas obéi à la ville morte. Alors, qu'est-ce que la population peut décider avec de telles écoles comme ça? Il peut détruire le bien de l'école, il peut brûler l'école. Qu'est-ce que la population peut faire? Soit quelle méthode qu'on peut faire pour que l'école ne fonctionne pas? C'est au moins ça que je voulais demander, parce que nous voyons même pendant le marché, il y a toujours des pillages, des biens, ainsi de suite. Ce que moi je voulais demander à l'invité de nous expliquer bien quelle méthode qu'on peut appliquer pour ne pas arriver à détruire le bien public pendant la ville morte et autres. Merci beaucoup et bonne journée.
Bien. Mata Joël, vous êtes aussi à Kinshasa. Bonjour.
Ça m'a beaucoup intéressé. Vous savez, je suis d'ailleurs même le président d'une association qui concerne comment les gens doivent respecter les biens publics. Donc, quant à moi, vraiment, l'idée, je lui remercie, je lui félicite parce que l'idée est bonne. Donc, c'est quelque chose, en principe, que l'État devait faire, c'est-à-dire organiser des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles, organiser des campagnes de sensibilisation même au niveau du marché, même dans des lieux publics, pour, c'est-à-dire, informer, comme l'invité a dit, aux gens, aux personnes, dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des situations politiques, de ne pas toucher les biens publics, parce que les biens publics, comme l'invité a dit, ce sont des biens qui sont sacrés et ce sont aussi des biens qui sont alloués à notre vie quotidienne. Donc, ce n'était que ça Et je voulais tout simplement ajouter à l'idée des professeurs. Merci beaucoup.
Bien, merci. Un professeur Dan.
Oui, pour répondre à notre premier auditeur, je ne sais pas si je saurais raconter vraiment ses préoccupations, mais écoutez, je ne suis pas là pour justifier un quelconque comportement d'un promoteur d'une école ou d'un pasteur d'une église. Non, ça c'est pas mon rôle. Si je suis ici, c'est pour essayer de réfléchir, poser le diagnostic en tant que scientifique sur une problématique, et la problématique c'est la destruction des biens publics. Et moi, en tant que scientifique, je pose les hypothèses pour voir quelle méthodologie appliquer afin de résoudre ces problèmes qui se posent avec acuité dans notre société. Donc ce n'est pas à moi de dire ou de donner des mots d'ordre aux gens par rapport à la ville morte. Vous comprenez, je suis très mal placé pour donner ces leçons-là. Mais qu'à cela ne tienne, si nous sommes... Mais
d'après lui, c'est que quand il y a peut-être un mot d'ordre à y donner et qu'on remarque qu'une école est en train de fonctionner, mais ça va énerver les autres et ils vont chercher à venir casser.
Ma démarche n'est pas celle-là. Moi, ma démarche est de former, d'éduquer, d'encadrer et d'informer notre population.
Quelle que soit la raison ou le motif, on ne doit pas détruire ces biens-là.
On ne doit pas toucher aux symboles sacrés. Et ces symboles sacrés, je les ai nommés, notamment les écoles, que ce soit primaire, maternelle,
universitaire, les églises,
les établissements de santé, on ne doit pas y toucher. Croix-Rouge, hôpitaux, dispensaires, non, il ne faut pas y toucher. Et les églises, parce que ce sont des symboles divins. Donc, on ne doit pas y toucher. Moi, ma démarche, c'est celle-là. Et je suis là justement pour réfléchir ensemble, pour porter tous les peuples congolais à l'unisson.
Mata Joël, qui vient d'appeler de Kinshasa, soutient votre démarche. Oui. D'ailleurs, il dit qu'il faut une campagne de sensibilisation.
Il faut une campagne. D'ailleurs, j'en profite pour relayer sa voix, pour dire qu'il y a lieu qu'on puisse intégrer cela dans notre système éducatif. Par exemple, vous savez, j'ai parlé tantôt de la formation professionnelle, mais dans la formation professionnelle où on doit intégrer selon l'environnement de chaque province, pouvoir contextualiser l'enseignement par rapport aux provinces. Et à ce moment-là, on rapproche la réalité de l'apprentissage aux apprenants, parce que ils seront en train de résoudre les problèmes de leur société. Et vous savez, nous sommes de la tradition orale. Et pourquoi pas faire un cours de la tradition orale sur les valeurs sacrées des biens sacrés de la République dans toutes nos écoles.
Mais il y a aussi une grande partie de la population, des jeunes gens qui ne vont pas à l'école ou qui n'ont pas été à l'école et qui se retrouvent dans la rue.
Dans ce cas-là, alors
comment allez-vous toucher cette frange de la population?
Allons au marché, sensibilisons, vous les journalistes, nous les éducateurs dans les écoles, parlons-en à nos élèves, parlons-en à nos apprenants, les pasteurs dans les églises. Les pasteurs dans les églises, il faut en parler. Quand on parle de la sensibilisation ici, il faut pas seulement voir l'État. Avant de voir l'État, qu'est-ce que nous faisons pour l'État? Parce que nous vivons tous dans un même encadrement spatio-temporel. Nous vivons tous dans un même vivre ensemble. L'État c'est qui? L'État c'est vous, l'État c'est moi. Donc chacun à son niveau peut y travailler. Les pasteurs dans les églises, les éducateurs dans les écoles, les journalistes aux médias, informons, formons et encadrons notre population. C'est le travail, c'est la raison d'être de ma présence ici, d'informer notre population pour leur dire attention, quelles que soient nos revendications, quelles que soient nos colères ou nos préoccupations, ne touchons pas aux valeurs sacrées de la nation, notamment les églises, les écoles et les centres médicaux. Nous ne devons jamais y toucher. Plus jamais ça. Ne brûlons pas nos drapeaux. Ne brûlons pas nos statues. Ne brûlons pas nos armoiries. Non. Ce sont des valeurs.
Mais vous savez que lors de ces manifestations, il y a des éléments incontrôlés, disons des profiteurs qui.
Nous ne devons pas nous lasser pour les former, pour les informer. Nous sommes là pour jouer ce rôle-là, et tant et aussi longtemps que nous allons insister et informer notre population, je crois que nous allons atteindre une couche de la population. Et pendant les manifestations, s'il y a d'autres manifestants qui veulent brûler les écoles, d'autres leur diront
Non, ne touchez pas à ça.
Nous avons entendu les professeurs dire, ce sont des valeurs sacrées. Quand ils verront quelqu'un vouloir toucher aux hôpitaux, ne touchons pas à ça. Nous sommes là pour faire ce travail de sensibilisation, pour éduquer notre population, parce que ce n'est que par l'éducation que nous pouvons relever notre nation.
Bien, merci professeur Dan Kouba. Je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de l'Université canadienne du Congo. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup.